Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Amiens, suite et deuxième des 5 émissions dédiées à la table ronde musique et médias qui s'est tenue le 15 novembre dernier dans le cadre du festival Picardie Move à la Briqueterie, un événement organisé par Radio Campus Amiens, la Briqueterie et le label La Maison, avec pour invité Ghislain Chantepie de Radio Campus France, Camille Froger de la Ferrarock et Bastien Brun du magazine Longueur d'onde. Suite donc de ces émissions, cette fois-ci dédiées au financement des structures.
Du coup, j'aimerais vous poser la question aux deux réseaux radio. Donc, vous représentez un réseau, donc avec au moins une vingtaine d'acteurs dans chacun des cas. Est-ce que vous avez une vision un peu de la structure moyenne radio associative au sein de vos réseaux? Est-ce qu'il y a une radio moyenne dans vos réseaux?
Alors, pour le réseau Radio Campus France, on fait des études, des audits internes, on essaye d'en faire de façon régulière, on en a fait un récemment pour justement avoir une cartographie assez précise de plusieurs données, notamment la taille, les budgets, le nombre de salariés dans nos structures. Ce qu'on constate aujourd'hui sur nous, on a 26 radios, dont quelques-unes qui ne sont que qui sont des web radios pour l'instant, dont on espère qu'elles auront un jour une fréquence. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une hétérogénéité assez importante dans les projets qui appartiennent au réseau Radio Campus France. Une hétérogénéité qui est surtout liée à l'âge de chaque projet, ce qui est bien naturel. Naturellement, nos radios qui ont quelques mois ou voire quelques une ou deux années d'existence, on a des projets qui sont strictement bénévoles, qui sont mus par la passion des membres fondateurs, comme ça l'est souvent hein, quand on crée une association, et qui du coup sont des structures de taille et de budget modeste. Après, si on est sur des radios qui ont entre 5, 10, voire plus, on est sur des radios qui aujourd'hui ont quasiment toutes des salariés. C'est aussi l'effet automatique du fonds de soutien à l'expression radiophonique, puisque naturellement, cette subvention qui est tout de même la part principale hein, encore de beaucoup de nos radios en termes budgétaires, amène à salarier des personnes, donc à avoir des radios qui deviennent semi-professionnelles. Et pour finir, ce qu'on constate sur nos radios salariés à nous, on a des radios qui vont effectivement d'un seul salarié par projet à des radios, celles qui ont les budgets les plus importants au sein de notre réseau, qui vont de 8 à 9 salariés.
D'accord. Camille, ça représente un peu le...
Bah oui, pour compléter ce que dit Ghislain, c'est on fonctionne un petit peu de la même manière. Alors nous, toutes les radios ont au moins un salarié, mais effectivement, elles restent en termes de fonctionnement... Faire une moyenne, c'est possible. Après, ça représente absolument pas la réalité des radios. Juste pour donner un exemple, nous, on va dire... la plus petite radio entre guillemets en termes d'équipe, ça va être RCV à Lille, donc ils ont qu'une demi-antenne, je crois qu'ils prennent l'antenne à partir de 15h, 15-10, entre, ouais, 15-16h jusqu'à le matin 5h du mat. Et donc c'est Ben qui est donc le seul salarié, donc le coordinateur d'antenne, donc sur un mi-temps. Donc voilà, vraie petite équipe, bon après avec beaucoup de bénévoles et qui fonctionne très bien. Et la plus grosse radio en termes d'équipe, ça va être Bob FM à Limoges, où là effectivement on a un directeur, on a une administratrice qui fait la comptabilité à mi-temps et quatre animateurs permanents pour faire les émissions au quotidien.
Et du coup, vu qu'il y a une force bénévole importante, vous avez une idée un peu des équipes bénévoles ?
Les équipes bénévoles, là, toujours en moyenne, on est sur les radios Ferra, 70 bénévoles par radio. En sachant que donc être bénévole, ça veut dire donc certains ne font pas de radio du tout. Je pense notamment toujours au sein de Bob FM et Nora, qui est une ancienne salariée de la Ferra. Elle s'est investie au sein de la radio, au sein de donc du conseil d'administration. Elle est secrétaire et donc voilà, va plutôt se positionner sur la préparation des dossiers de subvention, sur l'accompagnement. Pratico-pratique. Et son ami Franck, lui, est trésorier, et puis c'est lui qui anime le site internet. Donc qui apporte des compétences qui sont aussi nécessaires aujourd'hui pour développer l'activité des radios. Et puis sinon, voilà, on a les bénévoles qui font leurs émissions plutôt spécialisées. Et puis il y a différents fonctionnements, mais ça j'imagine que c'est partout pareil. Donc soit la personne est toute seule, mais généralement ils sont des équipes de 3, 4, 5, voire un peu plus pour faire leurs émissions.
100% des structures des deux réseaux sont associatives ?
Tout à fait. Ouais. C'est comment je pourrais dire ça ? C'est inhérent en fait à la création des radios associatives qui sont fédérées au sein de la Ferraroc et j'imagine de Radio Campus. C'est des radios de catégorie A, donc qui sont des radios associatives.
Sur cette question, vu que tu as déjà cité le FSER, Fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc on va parler un petit peu sous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se goupille le financement d'une radio, en expliquant justement le rôle de ce fonds de soutien, et expliquer également cette catégorisation un peu des radios?
Je commence et tu m'arrêtes et tu me complètes parce que je suis pas... Alors, le FSER, donc Fonds de soutien à l'expression radiophonique, donc si je dis pas de bêtises, il a été créé très rapidement, donc dès 82. Ou 86 ? 86. Donc c'est sur la loi de 86, en fait, à la base, et donc il y a eu une petite modification en 2006, mais à la base, c'est une taxe. Donc c'est une subvention... qui est prélevé, donc l'argent est prélevé par rapport à un pourcentage qui va être pris sur les recettes publicitaires que des médias audiovisuels, donc la télé et les radios privées. Donc c'est reverser une taxe, un pourcentage qui lui était redistribué aux radios. Depuis 2006, il y a eu un petit changement. Du coup, cette taxe, elle re-rentre dans le budget de l'État. Et donc, l'État remet des sous. Donc, ça veut dire que ça a changé de ministère. Et ça veut dire surtout que l'État a fixé la somme à 29 millions d'euros. Ces 29 millions d'euros, voilà, donc c'est le FSR qui les gère et qui va les dispatcher sur... il y a combien de radios qui en bénéficient ? 600. Je crois que la dernière fois, il y a c'est à peu près 600. Pour pouvoir bénéficier du FSER, il faut avoir un an d'existence, émettre depuis un an, avoir un an d'activité. On construit son dossier, il est examiné et en fonction de ça, voilà, on va avoir une somme qui va nous être attribuée. Si je dis pas de bêtises, alors on a la sélective et forcément j'oublie le nom de la principale. Et donc ça peut aller jusqu'à 40 000 euros Et après, on va avoir la sélective qui, en fonction des actions qu'on va mettre en place, on va avoir donc des sous qui s'ajoutent. Ce qui peut être assez conséquent. Nous, effectivement, pour les radios Ferrarock, donc en moyenne, ça va être 50 000 euros à peu près. Et ça représente, oui, entre 40 et 50% de leur fonctionnement. Sachant, voilà, oui, on est sur du 80-90 000 euros de budget à l'année. C'est un dossier, en fait, voilà, où on doit présenter les actions menées dans l'année. Et ces actions, effectivement, vont forcément influer sur ce qu'on va mettre en place pour pouvoir toucher le FSER. Je vais peut-être te laisser la parole sur tout à l'heure qu'on en parlait. Tu savais lister un petit peu mieux que moi tout ça.
Oui, alors je suis pas une sommité non plus sur les catégories de radio, mais peut-être aussi ce qu'on peut dire sur le FSER avant de parler des catégories de radio, c'est le fait que la décision de créer ce fonds, effectivement, n'a pas été concomitante à la libéralisation des ondes. On a libéralisé en 81, donc on a ouvert la bande FM à l'ensemble des projets qui souhaitaient une fréquence. D'ailleurs, c'était un joyeux bordel, hein, entre guillemets, au début. Et puis, en fait, au bout de quelques années, les pouvoirs publics et la société civile s'est rendu compte que parmi le bouillon de radio libre du début, il y avait deux types de radios qui commençaient à émerger. Il y avait des radios libres qui commençaient à diffuser de la publicité, commençait à avoir une existence économique plus importante. On peut citer l'exemple le plus connu, c'est Énergie, qui est une vraie radio libre 81 et qui après a choisi d'aller vers un modèle économique très commercial. Et puis on avait une autre catégorie de radios, des radios justement associatives qui conservaient la forme associative et qui elles ne souhaitaient pas rentrer dans une logique commerciale. Et donc pour un peu mettre de l'ordre dans cet état-là, les pouvoirs publics ont décidé de protéger d'une certaine façon le secteur non marchand radiophonique en créant un cadre effectivement de financement pour les radios associatives qui resteraient à but non lucratif. Et c'est comme ça qu'est né le fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est une sorte de deal entre guillemets entre le fait de permettre à des opérateurs privés ex-radio libre entre guillemets de pouvoir diffuser de la publicité à l'antenne et de se financer de la sorte sur de la ressource hertzienne qui est un bien public, hein, faut-il le rappeler. Et d'autre part, les radios associatives qui, elles, s'engageaient à ne pas aller vers ce modèle économique commercial et qui, du coup, bénéficieraient d'un fonds de subvention en échange du fait qu'elles n'auraient pas le droit de avoir sur leur antenne plus de 20% de publicité par rapport à leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que leur chiffre d'affaires ne devait pas avoir dans ces lignes plus de 20% liés à des recettes publicitaires. Donc, on a mis, entre guillemets, la publicité sur les commerciales et le financement de la subvention sur les non commerciales, avec en plus, quand même, il faut le dire, des engagements pour les radios associatives. C'est-à-dire l'idée d'être des radios locales, puisque les radios associatives sont forcément des radios locales, donc des radios de proximité. Et dans les conventions que nous, le CSA, avec les radios associatives, que nous connaissons tous, hein, Campus, Ferra et autres, il y a des missions d'intérêt général, de proximité sociale, de lien avec l'activité culturelle locale, de pédagogie. Donc il y a tout un ensemble qui protège, entre guillemets, le format radio associative et qui justifie cette subvention qu'est le FSER. Et je pense que c'est quand même important de le rappeler parce que c'est là quand même le cœur de l'identité d'une radio associative en France et c'est ce qui fait sa singularité. C'est-à-dire que c'est un modèle qui n'existe pas ailleurs qu'en France.
Ce protectionnisme, tu parles, enfin, forme de protectionnisme ?
En tout cas, cette forme d'exception un peu culturelle qui est de dire on a les acteurs non marchands à qui on attribue une ressource qui, vous pouvez le constater ailleurs à l'étranger, est marchandée, c'est-à-dire les fréquences. La ressource hertzienne, c'est quelque chose, en Angleterre, vous achetez des fréquences. C'est pas qu'on vous les alloue pas comme ça gratuitement par l'État, vous les achetez. Et donc forcément, en France, le fait d'avoir 600 radios associatives, ça fait de la France le pays radiophonique le plus riche au monde, même on peut le dire en termes radiophoniques. Après, il y a des pays où ils ont développé les télés locales, etc. Mais c'est ça aussi, c'est quand même, on fait partie d'une singularité.
Donc, du coup, ces radios, on va dire non marchandes, ça représente ce qu'on appelle les catégories A. Il existe deux autres catégories, B et C, il me semble.
Alors oui, la typologie CSA est un peu, il y a même D hein, et
d'accord,
E.
D'accord. Alors, E, c'est plus complexe que ça.
Les B, pour faire simple, ce sont les radios locales commerciales. C'est-à-dire, ce sont les radios un peu près de chez vous qui émettent sur une ville ou un territoire et qui font entre guillemets du énergie locale. On va faire les choses grossièrement, mais pas que, ou du Europe de local. Mais bon, des radios commerciales locales. Après, vous avez effectivement les C, les D. Alors, j'ai un doute sur lesquelles sont les radios périphériques et lesquelles sont les réseaux nationaux. Ce sont des radios plus nationales, donc c'est là où vous avez effectivement les grands acteurs. On parle des énergies, mais on parle aussi des RTL ou des Europe. Voilà, il y a ce type de typologie. Ouais.
Alors justement, puisque la table ronde aujourd'hui porte sur la question des médias et de la musique, est-ce que là, dès le départ, sur cette question du financement FSER et aussi sur la catégorisation des radios, est-ce qu'on peut justement tout de suite identifier les différents aspects au regard de ces médias par rapport à la musique et, ou de ces financements par rapport à la musique? Je sais que le FSER, par exemple, fonctionne avec des critères qui sont notés. Est-ce que le lien, il est tout de suite évident par rapport au monde des musique actuelle ou pas d'ailleurs?
Alors justement, en fait, c'est par exemple ce pourquoi je pense que Radio Campus France et la Ferrarock existent aujourd'hui, c'est que cette relation et cette mission que les radios sont attribuées, mais de radio associative musicale, n'entre pas en compte dans le FSR. Donc l'action de valorisation, le travail de défrichage et de prescription aux auditeurs que les radios associatives musicales ont n'est pas valorisable aux yeux du FSER aujourd'hui.
Est-ce que vous, en tant que fédération, par exemple, c'est un message que vous portez auprès des institutions?
Tout à fait. Et c'est ce pourquoi on rencontre régulièrement la secrétaire générale du FSER, Laura Debussy, et à chaque fois on lui dit que ça serait bien que ça rentre en compte au même niveau, effectivement, que tout, le critère de sensibilisation au développement durable, le travail de pédagogie, le travail des actions culturelles. Nous, on aimerait que les radios qu'on représente, et finalement on arrive facilement à une cinquantaine de radios, puissent être valorisées dans l'avenir très proche, peut-être.
Sur l'aspect spécifique découverte musicale, du coup.
Oui, voilà. Sur le fait que ce soutien aux artistes émergents fait partie du cœur de métier des radios, et je pense que c'est quelque chose qu'elles font bien et depuis plusieurs années. Et puis c'est pareil, ça soulève quand même pas mal de choses, parce que avec ce qui se passe autour du MOUF, par exemple, le repositionnement de la direction artistique, le changement de cap, ce qui fait que, finalement, pour nous, c'est plutôt... c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la valorisation des artistes indépendants, la promotion, le soutien, c'est quelque chose... c'est l'une de nos missions principales, et ça serait légitime, peut-être, que ça puisse être valorisé.
Ça avait d'ailleurs été l'objet d'une discussion qui n'a pas abouti, mais qui avait été importante autour de la création du Centre National de la Musique. Donc ça avait fait l'objet justement de discussions directes avec les deux fédérations, Ferrarock et Campus. Et il est vrai que sur le principe, au niveau politique, il y avait une volonté à ce moment-là, quand il a été question de créer le CNM, de bonifier le travail que faisaient les radios, et notamment les radios associatives musicale, donc Campus et Ferra notamment, sur cette question de la découverte, et du coup de pouvoir obtenir un soutien officielle des pouvoirs publics sur cette question en ayant en échange un label de radio découverte, c'est-à-dire pour les radios qui font un travail important sur la découverte et sur la promotion d'artistes locaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le fait et on ne le fait pas pour avoir des ressources, sinon ça se saurait. Mais il est vrai qu'on peut estimer qu'au niveau de la politique culturelle, il puisse y avoir un soutien sur cette mission, au même titre que d'autres missions de défrichage ou repérage sont soutenues hein, par les pouvoirs publics dans d'autres domaines. Donc c'est vrai que ça nous semblait assez cohérent comme revendication, et je pense que cette revendication est toujours actuelle.
Retour sur longueur d'onde, où au final les choses sont un peu différentes.
Oui, on était sur les ondes, on passe à longueur d'onde.
Les choses sont...
Oui, c'est... Bah, Serge faisait de la radio hein, aussi.
Pour le coup, vous êtes dépendant, on va dire, de la publicité.
Ah oui, la publicité, soyons clairs, on en est totalement dépendant, puisque de la publicité, nous dépend le nombre de pages qu'on a dans le magazine. Donc, la publicité, ça tient une part importante. Il n'y a pas de fonds d'aide comme c'est le cas pour les radios, puisque nous, c'est une SARL, et c'est aussi une association. Donc, il y a les deux statuts. Nous, c'est vraiment la publicité qui apporte le revenu. Et c'est la totalité du revenu de longueur d'onde.
Du coup, il y a quand même un choix qui a été fait à un moment entre assumer un journal gratuit.
Exactement.
En acceptant de la publicité ou l'inverse.
Exactement, mais ça c'est le choix d'un journal gratuit. C'est-à-dire que à un moment donné, on fait soit le choix d'être payant en ayant une petite part de publicité, soit on dit qu'on passe gratuit, mais alors il faut trouver des financements. Et les financements, c'est la publicité.
Et du coup, est-ce que tu sais ce qui a motivé ce choix de la gratuité pour longueur d'onde?
Ah bah oui, le choix de la gratuité, c'est c'est voir le paysage des médias changer déjà au milieu des années 90, à la fin des années 90, et voir que les ventes en kiosque s'effondraient, et le fait qu'il y ait besoin de diffuser simplement le magazine et chercher un nouveau mode de diffusion, parce qu'on est déjà sur une érosion des ventes en kiosque.
D'accord. Dès les années 90 pour toi?
Ah bien sûr. Et puis ça a été un choix qui a été fait avant l'arrivée des journaux gratuits. Par exemple, c'est-à-dire que 20 minutes, métro, tous ces journaux gratuits diffusés dans ces quotidiens gratuits diffusés dans les métros, longueur d'onde était gratuite bien avant. En fait, c'est un choix assez novateur finalement.
Et c'est un choix qui vous semble encore tenable aujourd'hui?
Alors c'est un combat aujourd'hui. Hein, chaque numéro est un combat. Il faut le dire, qui tient grâce à la passion de chaque rédacteur. C'est-à-dire que les piges font pas vivre une famille. Loin de là. Même Serge qui est le fondateur, il n'est pas multimillionnaire et loin de là. Je pense que c'est un modèle économique qu'il faut réfléchir. Après, il est et on arrive à ce qui va bouleverser le monde de la radio et ce qui bouleverse déjà le monde des médias, c'est l'internet, quoi. Puisque aujourd'hui il y a un journal papier, mais quel sens il prend par rapport à l'internet? Et là, c'est la question qu'on peut se poser. Nous, à longueur d'onde, tant que longueur d'onde vivra, il y aura un journal papier, ça c'est sûr. Jamais on sera qu'un site internet. Il y a une réflexion, mais ça j'en ai discuté avec Serge, et c'est des choses dont on parle. Il y a un journal papier et on fait une déclinaison web. C'est pas ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire un site internet. We'll be right back.
Et voilà, c'est la fin de cette seconde émission dédiée à la table ronde musique et médias, table ronde qui s'est tenue le 15 novembre dernier dans le cadre du festival Picardie Move à Amiens, un événement organisé par Radio Campus Amiens, la briqueterie et le label La Maison, avec pour invité Ghislain Chantepie de Radio Campus France, Camille Froger de la Ferrarock et Bastien Brun du magazine Longueur d'onde, un événement en partenariat avec CD1D et le réseau Le Patch. Suite et troisième partie des 5 émissions dédiées à cette table ronde très prochainement. Cette fois-ci, ce sera sur la question de l'artiste local. Existe-t-il encore et cette notion a-t-elle encore un sens pour les médias musicaux? On se posera la question avec nos 3 invités. À très bientôt, au revoir. What?